un balado Radio-Canada audio.
Aujourd'hui, le 23 juin, l'improbable parcours du Danemark, le soccer et l'homophobie. Et connaissez-vous bien votre Ronaldo?
Ici Assun Camara.
Ici Olivier Tremblay.
Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer.
Dans la surface d'un frappe.
When the seagull follows the troll.
Juste pour vous informer que Eriksen sur brancard est sorti du Parken Stadium dans un grand drap blanc autour avec toute son équipe qui l'accompagne. C'est quelque chose, c'est un moment fort, terrible. Cette équipe danoise, les yeux rougis, certains ont la mâchoire crispée. Kasper Schmeichel qui va rejoindre aussi son équipe et voilà, le corps de, en tout cas le Christiansen va sortir.
C'est le genre de soirée qui nous rappelle à tous à quel point la vie est importante.
Play paused. And the translation of that banner is that all of Denmark is with you, Christian.
En deux rencontres dans cet Euro, les Danois ont perdu donc à deux reprises. Mais après deux matchs, ils en sont à 43 tirs en deux matchs pour un seul but. Ils sont mal payés pour l'instant, ces Danois. Ils ont concédé seulement 7 tirs dans deux rencontres, mais ils ont pris 3 buts. Oh, pas autant que c'est dur pour les Danois, mais c'est pas fini, comme vous disiez.
In just 9 days.
Quelle solidarité héroïque ce soir, ces Danois.
It's amazing. Like everything that happened today is amazing.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Salut Assoun.
Salut Christine.
Bonjour Ali.
Salut Assoun. Toi, je te parle plus là, depuis tes quiz.
OK, commence très bien. C'est à l'image de notre matin. On a entendu d'entrée de jeu un super bon montage de notre producteur Jacques-Alexis sur le Danemark. Donc, la phase de groupe qui tire à sa fin, qui va se terminer aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut s'entendre que l'histoire de l'Euro jusqu'ici, c'est le parcours du Danemark. D'abord, il y a eu cet arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors du premier match. Match perdu 1-0 contre la Finlande. On peut comprendre, compte tenu des circonstances. Et là, une éclatante victoire de 4-1 contre la Russie qui leur permet de se qualifier pour la ronde des 16. On peut pas rester indifférent face à cette performance-là.
Oli va encore moins t'aimer si on s'appuie sur le pronostic que j'ai donné pour le Danemark.
Ouais, c'est vrai, t'avais dit que la surprise, ça pourrait être le Danemark.
Oui, pourquoi? Parce que, bien entendu, ils avaient certains historiques par le passé, ils avaient gagné ce tournoi-là et ça m'avait marqué. Mais aussi par le fait qu'ils ont, ils ont des super joueurs. Je pense à Braithwaite, justement, Eriksen qui était là au début du tournoi. Schmeichel au goal, je veux dire, c'est une équipe qui a le potentiel pour faire quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai qu'ils ont l'habitude aussi de bien paraître lors des grandes compétitions. Alors, ils vont rarement au bout, mais ils posent toujours des problèmes aux équipes contre qui ils jouent. Et je m'attendais à les voir et je ne suis pas surpris de les voir à ce niveau-là aujourd'hui. Et je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin s'ils arrivent à non seulement s'appuyer sur leur qualité footballistique, mais aussi à jouer pour Eriksen. Je pense que ça peut être un supplément d'âme qui va unir un groupe, qui marque à vie des coéquipiers. Et c'est l'occasion pour eux de se battre pour lui et de lui rendre hommage à leur façon.
On les sent portés par les circonstances, hein? Ouais. C'est fou, cette équipe-là. Déjà, quand Eriksen était là, je veux dire, on savait, surtout toi, Assun, évidemment, on savait un peu de ce dont ils étaient capables. Mais il y avait déjà une grande solidarité, je pense, dans cette équipe-là. Puis forcément, l'incident Eriksen, ça les a soudés. Non, contre la Belgique, c'était peut-être un test un petit peu trop dur là tout de suite dans les jours qui ont suivi ça. Mais je pense que là, ils ont eu l'occasion de justement voir Eriksen, prendre de ses nouvelles. Il est allé les voir à l'entraînement. Puis là, finalement, ils ont pu un peu surmonter cette épreuve-là puis en sortir plus solidaires encore. Puis tu les regardes jouer. C'est une équipe qui vraiment joue l'un pour l'autre. Il n'y a pas nécessairement d'individualité qui sort du lot. C'est vraiment une équipe. Puis c'est franchement beau à voir en plus avec ce public-là à Copenhague qui les porte aussi. On dirait qu'il y a toujours quelque chose de particulier qui se passe avec le Danemark. Puis cette année encore, ça ne fait pas exception.
Mais tu dis que l'événement d'Eriksen, ça les a poussés à faire encore mieux. On dirait qu'ils sont en mission, mais moi, j'avais peur que ça fasse l'effet inverse. J'avais peur que ça les écrase et qu'ils ne soient pas capables de se remettre de leurs émotions. Donc là, on va...
Je pense qu'on avait un peu tous craint ça.
Oui, c'est ça, parce qu'au départ, Asun t'a prédit qu'il pourrait causer une surprise. Il n'y a personne qui est totalement surpris de les voir en ronde des 16, mais à la fin du match contre la Finlande, honnêtement, moi, j'y croyais pas. Ils se sont relevés, donc leur parcours va se poursuivre. En quelques mots, je veux juste vous parler de Luka Modric. Oli, tu m'en as parlé justement la semaine passée. Là, il est devenu le plus jeune joueur croate et le plus vieux de l'histoire à avoir marqué à l'Euro. Et tout un but aussi. C'est incroyable de voir qu'un gars est encore capable de jouer à ce niveau-là, malgré son âge avancé.
C'est une brute.
C'est une brute, hein?
J'ai rien d'autre à dire. C'est une brute. C'est un phénomène. Je pense qu'au début du tournoi, j'ai exprimé un petit peu mes craintes par rapport à Modric, mais je pense qu'on a ajusté certaines choses dans le collectif-là pour justement tirer le meilleur parti de ce qu'il peut apporter. Chapeau. Ils ont réussi à justement surmonter des épreuves eux aussi parce que franchement, début de tournoi, ça a été difficile contre l'Angleterre. Mais voilà, ils ont pris du poil de la bête un peu. Puis Modric, on sait de quoi il est capable. Puis continue à défier les années qui, tranquillement, pas vite, commencent à lui peser sur les épaules.
Oui, mais Asun, je sais qu'on a beaucoup parlé, évidemment, dans les prédictions de tes joueurs français, mais on n'avait pas parlé de Modric. Tu sais, on y pensait pas, on l'attendait pas. Mais
il n'est pas français.
Non, c'est ça le problème. Non, mais il est toujours là quand même dans les moments importants.
Ouais, il est madrienne, donc à partir de là,
je l'aime.
Je l'aime beaucoup. Mais oui, Modric, moi, c'est un joueur que j'admire beaucoup de par sa classe, sa façon de jouer, sa technique. Et puis, comme l'a dit Oli, je trouve que le collectif croate a trouvé une façon de jouer avec lui. Parce que dans le contenu, c'est vrai que des fois, il a perdu pas mal de ballons dans le jeu. Il y a quelques ballons qui ont été perdus lors du dernier match. Mais on sait de quoi il est capable et qu'il peut à tout instant faire basculer un match. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'aime beaucoup la combinaison du collectif et de Modric à l'intérieur de ce collectif-là. Et c'est payant. C'est payant pour tout le monde, pour lui. Et sincèrement, c'est juste incroyable la carrière qu'il a. Là, c'est fou.
Ça doit te faire plaisir, toi, comme fan du Real Madrid, en plus. On accuse souvent ce club-là de sortir le chéquier pour s'acheter un club. Puis de voir qu'ils ont les deux mêmes milieux de terrain, Modric et Kroos, qui ont acheté pourquoi, je ne sais pas, une cinquantaine de millions d'euros à eux deux, un truc comme ça.
Exactement. Et de les rendre incroyables à la fin. Parce que c'est justement ça. C'est des joueurs qui font briller un collectif, qui ont été franchement l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire aussi, dans la dynastie du Real Madrid. Et c'est juste incroyable de les voir performer à ce niveau-là et de le voir lui aussi aller loin. On verra jusqu'où ils iront, mais sincèrement, coup de chapeau à Luka Modric.
En passant, je suis conscient que je viens de parler de 50 millions d'euros comme si c'était de l'argent de poche. J'en suis conscient. Pas besoin de me le rappeler.
OK, donc là, on connaît, au moment d'enregistrer ce balado, on connaît la majorité des équipes qui sont qualifiées pour la ronde des 16.
Oui.
À la fin de cette première étape, est-ce qu'on a ce à quoi on s'attendait? Bon, évidemment, on va parler très rapidement de la Suisse pour notre producteur Jacques-Alexis. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur la Suisse? Non.
Oui. Si Federer est un super joueur de tennis. Voilà ce qu'on peut dire sur la Suisse.
Oli, as-tu quelque chose à dire sur la Suisse pour Jacques-Alexis? Parce que...
Non, écoute, la Suisse a fini de tuer ma prédiction dégueulasse pour la Turquie que moi, je voyais en équipe surprise, mais je voyais la Turquie en équipe surprise s'y arrivait à éviter les erreurs bêtes, puis ils n'ont pas évité les erreurs bêtes. Les Suisses ont pas mal joué, là, mais je pense que les Turcs les ont aidés un peu. Non, mais regarde, je pense que c'est... Écoute, tant mieux pour la Suisse. Je ne les vois pas faire un grand parcours. Encore là, ça dépend... Non, c'est ça. Puis je l'ai dit au début du tournoi, il y a une portion de tableau en bas où est-ce que c'est peut-être un petit peu plus ouvert s'ils aboutissent là. J'avoue que je n'ai pas fait les 62 scénarios possibles, là. Mais quand on regarde justement le bas de tableau, tenez, je vais aller, tant qu'à dire n'importe quoi.
Mais je remercie mon Suisse de t'avoir fait mentir. Merci Jacques-Alexis d'avoir fait mentir Olivier.
Voilà, exactement. Mais tu sais, si on arrive dans la deuxième portion de tableau, où est-ce qu'on a déjà... Bon, le Danemark, on en a parlé, ils peuvent causer une surprise, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne. Le Pays de Galles qui est là, les Pays-Bas, je pense que j'ai encore des points d'interrogation, même s'ils ont fait une bonne phase de groupe. Tu sais, si on tombe dans la deuxième moitié de tableau, il y a peut-être un petit coup à jouer, tout dépendant des résultats des matchs à venir encore.
Bon. Parce que si on parle de la plus grande surprise jusqu'ici, moi, j'ai parlé évidemment du Danemark.
Pour qu'on les parler de l'Italie.
Non, mais ça, c'était pas une surprise quand même. On les attendait en rond des 16. Il y a le Danemark. Ce serait quoi votre plus grande surprise? On peut aussi parler du Pays de Galles, de l'Autriche. Il y a quand même des équipes surprenantes qui se retrouvent dans la deuxième phase. Votre surprise, c'est quoi jusqu'ici?
Bah. Moi, j'avais mis l'Italie. Tu me dis que non, bien entendu, c'est pas une surprise, mais je rebondis sur ce que tu as dit. Mais je l'ai dans mon texte pour Radio-Canada Sport, j'ai parlé de l'Italie en surprise, paradoxalement. On sait qu'ils ont un historique incroyable. Je pourrais te parler de l'Autriche ou d'autres équipes, mais...
Mais l'Italie, tu avais un doute qui passerait pas à travers la première phase?
J'avais pas un doute, mais je voulais voir ce qu'ils étaient capables de produire là, aujourd'hui, dans une compétition comme l'Euro. Après 10 années assez difficiles, je suis extrêmement surpris de les voir à ce niveau et je suis pas le seul observateur. Je veux dire, le monde entier, le monde du football voit l'Italie à ce niveau-là et on en arriverait même à les mettre devant la France en tant que favori aujourd'hui.
C'est okay. Là où. Est-ce que tu es en train de donner raison à Olivier, là?
Non. Non, parce que je les voyais, j'étais curieux et je les avais placés justement à ce niveau-là. J'avais relevé leur série d'invincibilité. Ils restent sur un nombre de matchs incroyable à ne pas prendre de but aussi défensivement. Ils sont incroyables. Et les voir à ce niveau, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on replace l'échiquier et on se dirait que c'est l'Italie qui est favorite de ce tournoi au vu de ce qu'on a vu. Donc, c'est bien, ça va être intéressant et j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite. Donc, face à des grosses équipes, ça va être intéressant à voir.
Oli, quelle équipe t'attendais pas?
J'aimerais juste dire que c'était de la musique à mes oreilles, ce que je viens de dire. Moi, je suis surpris par la République tchèque.
Ouais.
J'avais le goût d'y aller dans la surprise inverse puis de parler de l'Espagne. C'est pas encore joué pour eux. Là. Puis ils connaissent pas le tournoi. Mais franchement, la République tchèque, moi, dans ce groupe-là, je fondais certains espoirs en l'Écosse, principalement parce qu'ils sont à domicile. Honnêtement, je me disais qu'avec avec le public de Hampden Park... peut-être qu'ils arriveraient à faire quelque chose, mais visiblement, ça n'a vraiment pas été suffisant. L'entame de tournoi contre, justement, la République tchèque, ça n'a vraiment pas été en leur faveur. Les buts de Patrick, alias le rappeur chic. je sens le vent de la tête de notre producteur qui fait non de la tête, qui est découragé, mais c'est pas grave, je vais l'assumer complètement. Non, mais justement, cette équipe-là, un peu comme le Danemark, tu sais, justement, je pense qu'il n'y a pas énormément d'individualité qui sort. Mais on sent qu'il y a un concept d'équipe. Oui, il y a eu des exploits de Patrick Schick, mais sincèrement, je suis surpris de la manière dont ils ont géré leur tournoi jusqu'à maintenant. Puis je leur lève mon chapeau parce que c'était pas un groupe qui était facile non plus, justement, avec Croatie, Angleterre à domicile, ouais. Écosse à domicile. Moi, c'est vraiment ça qui me... Fait que j'ai une surprise inverse dans ce groupe-là aussi. L'Écosse, franchement, je comprends, mais je comprends pas en même temps.
Oli, t'en as parlé un peu. J'allais vous demander votre plus grande déception. Ben moi, sur un plan plus personnel, c'est sûr, c'est l'Espagne. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. On attendait beaucoup de ce groupe-là. Et pour l'instant, ça se passe pas du tout comme on espérait.
Critiquer cette équipe espagnole, critiquer même avant l'Euro, Luis Enrique était sous le feu des projecteurs pour avoir donné l'impression de choisir une équipe lambda, entre guillemets. Il a enlevé le caractère. Aucun joueur du Real Madrid n'a été sélectionné dans cette équipe-là.
Mais c'est quoi le problème là, avec cette équipe-là, d'après ce que tu as vu jusqu'à maintenant?
Le manque de caractère, le manque de personnalité, alors que c'est ce qui faisait la force, finalement, de la Roja dans les dernières années. Tu as des garçons comme Sergio Ramos qui ne sont pas là. Tu t'appuies sur des gars qui voulaient absolument gagner. Tu le ressentais sur le terrain. Et forcément, moi, je trouve que cette équipe a du potentiel, mais pas plus que ça aujourd'hui, en tout cas, à travers de ce qu'il montre, à l'instar d'un Morata devant qui est bon, c'est un bon joueur, mais tu le sens pas tueur, tu le sens pas au niveau d'un Lukaku en Belgique ou d'un Mbappé avec
la
France.
C'est pas la même hargne, hein, pas
c'est
du
ça,
tout. Ouais.
C'est ça, il manque justement ce caractère, cette agressivité qui fait que bah, tu as envie de faire la différence. Et comme je vous disais, Luis Enrique, bah, on a l'impression qu'il voulait être la star de cette équipe. Il l'est aujourd'hui. Il veut aller à, contre vents et marées, contre tous les avis de tous les observateurs espagnols. Et forcément, bah, c'est plus difficile aujourd'hui pour lui.
C'est quand la dernière fois que Luis Enrique a marqué un but, par exemple?
Ouais, tu vois,
c'est ça, c'est ça le problème. Est-ce que vous voulez revoir vos prédictions? Bon, on a dit tantôt, Ali...
Je peux-tu parler de... Je me suis trouvé une autre déception, moi.
Ah ouais?
Un petit peu, ouais.
Non, t'es bon pour les déceptions, en général.
Ben, je suis cynique, tu sais, de nature.
C'est qui ta déception?
Ben, une petite déception, du côté, un petit malus du côté de la Pologne aussi. Moi, c'est peut-être un côté cynique, un côté romantique aussi. J'espérais que Robert Lewandowski... tire cette équipe-là vers le haut, mais je pense que ça a été nettement insuffisant. Pourtant, c'est pas une équipe de cône orange non plus. Ils ont des bons joueurs de Serie A dans cette équipe-là, notamment. Mais je pensais sincèrement que Lewandowski arriverait à faire un petit peu plus pour amener cette équipe-là à un niveau supérieur. Et j'ai été forcément... ça m'a laissé sur ma faim un petit peu.
Oui, je les avais oubliés, les Polonais, mais en même temps...
Ben, je te comprends, on les a oubliés, les Polonais.
Non, mais est-ce qu'on voulait revoir aux prédictions? Lire, on l'a dit tantôt, tu avais prédit que la Turquie causerait une surprise, ben c'est terminé.
C'était dégueulasse.
Mais pour le reste, je pense que, Oli, tu gardes ta prédiction pour les Italiens qui remporteront l'Euro.
Absolument, je reste là-dessus, campé sur mes positions farouchement.
Je sens qu'Assoun, le Français, est en train de changer d'allégeance.
Non. Il reste français.
Oui, mais t'as l'air moins convaincu. T'as l'air moins convaincu.
Par contre, je suis admiratif de la prestation des Italiens. C'est ce qui fait que ça donnera un bon match, mais qui fera que la France gagnera à la fin.
Bon, il n'est pas capable d'aller à l'encontre de ses origines.
La France.
Un sujet qui fait vraiment beaucoup parler aussi au cours des derniers jours à cet Euro, ben, c'est le Rainbow Gate, qu'on a appelé. On voulait éliminer le stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT+, pour le match entre la Hongrie et l'Allemagne. Pourquoi? Bien parce que la Hongrie a déposé un projet de loi visant à interdire, je dis entre guillemets, la propagande de l'homosexualité chez les mineurs. Et qu'est-ce qu'a fait l'UEFA? Elle a refusé. Donc, bon, évidemment, ça crée un débat. Les Allemands ne sont pas contents. L'UEFA a dit qu'elle a respecté ses valeurs et que c'était un sujet politique et on ne se mêle pas de la politique. Mais c'est tout moi où, encore une fois, l'UEFA manque une belle occasion de faire la bonne chose. Comment vous réagissez face à cette petite saga?
On l'a dit la semaine passée. Hein? On n'est même pas surpris quand les affaires arrivent comme ça de la part de l'UEFA parce que la feuille de route est tellement tachée. C'est un gris burk, cette feuille de route-là pour l'UEFA. Puis encore, mercredi matin, le communiqué, la déclaration de l'UEFA, on parle des deux côtés de notre bouche, encore une fois, où est-ce qu'on dit que le drapeau arc-en-ciel, ce n'est pas un symbole politique, mais on juge que la demande de la ville de Munich est politique.
C'est quoi?
C'est-tu politique ou c'est pas politique? Je veux dire, la demande, faut arrêter, là. C'est comme le drapeau arc-en-ciel, c'est correct, mais juste dans certaines circonstances. Non, ça marche pas. Je m'excuse, ça marche pas. L'UEFA, encore une fois, a raté une excellente occasion de se placer comme figure de proue d'un mouvement. C'est pas la première fois qu'il rate des occasions comme ça, et malheureusement, je pense pas que ça va être la dernière.
Oui, c'est ça. Je pense qu'ils sont placés dans l'idée d'être le plus objectif possible dans la prestation sportive, en fait, et pas donner le sentiment aux Hongrois d'être en terrain hostile. C'est l'argument qui est donné et qu'on peut entendre dans un sens. Mais comme dit Oli, franchement, moi, je comprends rien à l'UEFA, je vous dis la vérité. Ouais. Sincèrement, je ne comprends pas. Tu arrives à dire à t'engager sur le racisme et à dire que ce n'est absolument pas politique, mais c'est juste les droits de l'homme et les droits humains. Quand de l'autre côté, tu dis que la cause homosexuelle et LGBT+, devient politique, ouais. Alors que tu demandes à tous tes joueurs de combattre ça tout au long de la saison, à travers des publicités, comme on en parlait dans un podcast précédent, Venez faire la publicité, faites des spots publicités pour nous, non au racisme, non à l'homophobie. Et quand il faut passer aux actes concrets, on ne le fait pas. Et on passe à côté en disant, bah non, finalement. Tout comme ils le font pour le racisme, d'une certaine façon, on en avait parlé. Mais je veux dire, c'est que des positions folkloriques. Quand il faut passer aux actes, quand il faut punir, sanctionner vraiment, vraiment les acteurs du racisme, on ne le fait pas pour des causes d'argent. On laisse faire les matchs, on laisse passer sous silence parce qu'il y a des intérêts financiers, médiatiques derrière. Et puis là, c'est la même chose où tu t'affiches publiquement en disant que l'homophobie est un fléau. Et quand il faut agir de la sorte pour condamner justement certains agissements de certains groupes politiques ou pays envers justement les droits de l'homme, parce que ça reste tout simplement les droits de l'homme, on ne parle pas de politique, là, c'est juste les droits de l'homme, et ben, tu passes à côté en disant « Ah ben non, on ne le fait pas finalement ». Moi, c'est ce qui me gêne le plus au niveau de l'UEFA. Je les trouve complètement à côté de la plaque dans tout leur combat, et c'est pas seulement celui-ci. Comme l'a dit Oli, on n'est absolument pas surpris. C'est logique, c'est l'UEFA, et c'est comme ça, et puis faut faire avec. Écoute, moi je comprends, je sais pas, je sais même plus quoi dire à ce niveau-là, mais c'est
illogique. Et en revanche, l'Allemagne répond présente au bout, là. Dans la foulée de la décision de l'UEFA, non, l'Allianz Arena ne peut pas être allumée. Ben, y a des stades un peu partout en Allemagne qui ont été allumés aux couleurs de l'arc-en-ciel. On a partagé ça sur Twitter, différents clubs qui ont justement mis leurs pieds à terre. Puis eux, ils prennent ces décisions-là, puis ils montrent leur soutien envers la communauté.
Incluso sin mundial.
La cosa está así.
Si gritas puto,
el árbitro detiene el partido
y te sacan del estadio.
Si se vuelve a escuchar el grito,
el árbitro interrumpe el partido
y podría retirar a los jugadores
hacia los vestidores.
Y si se repite,
podríamos llegar a perder el partido.
Va en serio. Es la nueva disposición de la FIFA en todo el mundo.
Por un grito quedamos fuera del juego.
Un mundial significa mucho
para todos.
Es la emoción de millones.
No por algo, ¿no?
Vamos a perder todos.
¿Y ves que otros gritan?
Señálalos.
Nos vemos en el estadio.
Grita todo lo que tú quieras.
Menos el grito que nos deja fuera del juego.
Pendant que l'UEFA traîne les pieds, ben la FIFA a agi. L'équipe nationale du Mexique va jouer ses deux prochains matchs à domicile à huis clos en raison des chants homophobes de ses partisans. On vient d'entendre le message de la Fédé mexicaine qui explique dans le fond que les joueurs seront sanctionnés, les équipes seront sanctionnées si on continue à tenir des propos homophobes. C'est lors des matchs pour qualification pour les Jeux olympiques en mars qu'on a entendu des chants homophobes dans les estrades. Puis là, je suis en train de me dire que dans le fond, le problème, est-ce que c'est pas... C'est un problème de culture dans le monde du foot. On a plusieurs exemples. Il y avait Hector Bellerin qui évolue pour Arsenal, qui, à ce que je sache, n'est pas homosexuel, mais qui dit qu'il reçoit sans cesse des insultes homophobes, simplement parce qu'il a les cheveux longs, puis il a un style vestimentaire très extraverti. On se souviendra de Robbie Rogers qui avait dit ouvertement qu'il était gay alors qu'il évoluait pour le Galaxy Los Angeles. Récemment, il y a Colin Martin, en juin dernier, qui joue pour San Diego dans la USL, qui a dit aussi ouvertement qu'il était gay. Le premier à l'avoir fait, c'était Justin Fashanu, le Britannique. Et honnêtement, sa vie a été misérable après. Il s'est finalement suicidé en 1998. Et ici, en Amérique, ben, Asun, tu t'en souviendras, on a David Testo qui, en 2011, au terme de la saison, avec notre collègue Marie Machelos, ben, il a annoncé qu'il était gay. On peut entendre un extrait de son entrevue.
On a daily basis, I had to constantly be aware of the things I said, who I said it to, who I walked with, who I talked with. And I also think that players around me had to do the same towards me, and I felt that, you know? And that sucks. That sucks as a human being.
Donc, David Testo qui dit qu'il avait l'impression qu'il devait toujours faire attention à comment il agissait, ce qu'il disait, puis il a l'impression que ses coéquipiers faisaient pareil. Asun, tu étais dans le vestiaire à ce moment-là. Ce que je comprends, c'est que, bon, le public l'a appris à la fin de la saison, mais vous, vous le saviez déjà.
Oui, on le savait déjà, et c'est vrai que bah, je suis arrivé un peu plus tard dans ce groupe, juste avant l'entrée en MLS. Et c'est vrai que j'ai appris à découvrir un vestiaire et David aussi, qui était... Bah, écoute, une super personne.
Mais honnêtement, as-tu déjà senti des malaises ou du jugement, parce que j'ai nommé quelques noms, mais ça reste extrêmement marginal dans ouais. le monde du foot.
Oui, c'était un super joueur aussi. Et c'est vrai que je me souviens de son entrevue et de ses mots, justement, à travers son ressenti. Le ressenti qu'il avait d'être gay dans un vestiaire et de se dire que bah, il pouvait pas parler librement ou de façon de la même façon que les autres, en fait, au reste du vestiaire. Et en fait, personne peut aller contre son ressenti et lui dire « non, t'as tort ». S'il l'a ressenti, c'est qu'il le ressentait comme ça et il faut respecter ça. Mais c'est vrai que j'en ai parlé avec le reste du vestiaire par la suite, pour ceux qui le connaissaient depuis longtemps. Et donc, tous les gars de Montréal et d'autres qui ont partagé son quotidien. Et c'est vrai qu'eux n'avaient pas spécialement ce ressenti-là. Ils n'avaient pas l'impression de traiter David d'une autre façon que les autres. Et ce ressenti-là aussi, il faut le respecter. Ça veut dire que des gars comme Reda Agora, Mali Djerba ou d'autres, pour en avoir parlé avec eux à l'époque, ils avaient une super relation avec tout le monde. Mais c'est vrai que ça peut paraître délicat de comparer en fait le feeling et le ressenti de chacun. Donc, pour répondre à ta question, moi, non, dans le vestiaire, je ne sentais pas spécialement de différence en tant que tel. David était là dans le vestiaire avec tout le monde. Je lui parlais de la même façon, moi personnellement, que je parlais avec les Argentins de l'époque, les Français de l'époque ou autres. Mais en même temps, il vivait ce qu'il vivait. Il faut respecter ça. Faut respecter ça. Il faut même l'entendre et l'écouter. Peut-être que cette perception-là, peut-être même que je suis totalement à côté de la plaque finalement et qu'en faisant pas attention à ces choses, bah, tu ne fais pas attention au ressenti de chacun. Mais c'est peut-être une leçon de se dire, bah, écoute, il y a quelqu'un qui le vit mal, qui vit mal cette chose-là et qui en parle. S'il en parle, c'est qu'il l'a mal ressenti et que c'est important justement de l'écouter et de voir comment on peut améliorer les choses, non seulement pour lui, bon, c'est passé, mais pour les générations à venir et comment on peut améliorer ça dans le monde du sport.
Mais est-ce que vous trouvez que peut-être que c'est un problème de culture, comme je disais, dans le monde du foot? Est-ce qu'on n'est pas un peu archaïque? Je dirais particulièrement peut-être en Europe. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, au Canada, il y a plus d'ouverture, mais tu sais, on le voit, qu'au Mexique, il y a encore des chants homophobes. Je veux dire, on ne pourrait jamais faire ça à Montréal. Ça n'a aucun bon sens. Puis, à ce que je sache, dans la Premier League, il n'y en a pas de joueurs ouvertement gays, alors que c'est certain qu'il y en a, mais qui n'osent pas encore aujourd'hui le dire ouvertement.
Ça change une culture. Ça prend du temps. Il y a encore des enjeux sociaux. Il y a encore des enjeux sociaux d'il y a 100 ans qui ne sont pas réglés. Puis on le sait, mais ouais. on travaille fort quand même pour essayer de les régler. Ça prend du temps. Le chant dont on parle au Mexique, je l'ai déjà entendu à Montréal. Ça fait 10 ans de ça, mais je l'ai déjà entendu à une certaine époque.
Il y a 10 ans,
ça faisait ça quand il y avait un coup de pied de but. Mais ça a été éradiqué du stade. Ça a pris un certain temps, mais il a fallu que des gens, justement, mettent leurs pieds à terre et disent « Non, non, je m'excuse, messieurs, mesdames, on ne fait plus ça. » Et ça finit par partir. Est-ce que ça veut dire que tout est nécessairement parfait? Absolument pas. C'est un travail constant. Mais on sent déjà qu'il y a quelque chose qui se passe dans le milieu du sport. On s'ouvre à ces réalités-là de plus en plus. Encore cette semaine, dans la NFL, il y a eu le joueur des Raiders dont le nom m'échappe en ce moment. Puis vous allez m'aider, je suis absolument convaincu, qu'il a dit qu'il était gay. Carl Nassib, merci, qui a dit qu'il était gay.
Mais c'est fou.
Dans la NWSL, cette semaine, il y a Kumi Yokoyama qui a dit, puis encore là, je l'appelle Kumi Yokoyama, puis je ne sais pas à cause de la barrière de la langue si son nom désormais c'est juste Yokoyama. J'ai vu une source qui disait que son nom avait changé, donc si j'utilise pas son bon nom, je m'excuse, mais Yokoyama a dit « je suis transgenre ».
Oui, mais il y a cette ouverture-là dans le sport féminin.
Mais c'est ça. Mais il faut commencer quelque part non plus. Je pense qu'il faut arrêter de dire non plus « Ah, mais c'est juste une affaire de soccer féminin ». Oui, le soccer féminin peut-être est plus à l'avant-garde de ces enjeux-là, mais il faut commencer quelque part. Si ça se passe mieux dans ce milieu-là pour commencer, tant mieux. Mais il faut tranquillement que ça germe ailleurs, puis déjà qu'on ait qu'on a un exemple dans la NFL, je trouve ça absolument prodigieux, puis que ce soit reçu de la sorte aussi. Je veux dire, le chandail de Nassib a été le meilleur vendeur aux États-Unis pendant 2 jours par la suite. Je veux dire, ça a été bien reçu dans la population en général. Joe Biden a félicité Nassib et Yokoyama pour leur prise de position, pour leur courage. Si tout le monde s'écoutait un peu plus, c'est un peu ça le plaidoyer, finalement.
Mais ça, c'est aux États-Unis. T'sais, à l'époque aussi, Barack Obama avait un peu rendu hommage à Robbie Rogers quand il avait été le premier à le dire ouvertement. Mais Hassan, est-ce que tu sens qu'on est un peu en retard dans le monde du foot européen? Ou...
Pas spécialement du foot européen. Je veux dire, tu parlais du Mexique, par exemple, et et peut-être le fait culturel qui fait qu'on est... que c'est différent. Moi, je pense vraiment que oui, il y a des enjeux de société dans certains pays auxquels ils sont même pas... ils sont même pas en 1940 en Europe, là où à ce qu'on vivait en Europe. Les gens ont faim, les gens n'ont pas de travail. Il y a des endroits où il y a 60% de chômage dans la population, où les jeunes n'ont pas d'emploi non plus. C'est difficile d'aller leur demander d'avoir les mêmes enjeux qu'on peut avoir, nous, en Amérique du Nord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Comprends.
C'est très compliqué. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'éducation, ça demande une évolution. Il y a 20, 30 ans, c'est des termes qu'on employait aujourd'hui. Je veux dire, la communauté gay, LGBT, ici, au Québec. Enfin, peut-être pas au Québec, je ne sais pas. Je parle de ce que je connais, moi, en France ou en Europe. Je veux dire, c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Là, on a fait des pas de géants, là, en 20 ans, là. Donc c'est difficile de demander à d'autres populations aujourd'hui d'être prêts et d'avoir le même raisonnement, d'être à la même hauteur aujourd'hui en termes de pensée et d'évolution intellectuelle. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire, une éducation qu'il faut faire, une éducation à travers les instances. Bah, les joueurs en tant que tels, bien sûr, ont une responsabilité. Et j'aime voir des joueurs comme Antoine Griezmann tweeter comme ils l'ont fait avant-hier et prendre certaines causes de façon publique. Mais c'est aux institutions aussi, je suis désolé, là. Elles doivent, c'est elles qui ont le pouvoir. On parlait de l'UEFA, on parle de la FIFA, ils ont le pouvoir d'aider et de changer les choses.
Mais à l'époque de David Testo, là, tu nous as dit que dans le vestiaire, tu n'as pas senti de malaise ou quoi que ce soit. Est-ce que tu sentais que le staff ou les dirigeants du club aussi l'appuyaient? Parce qu'à l'époque, je me souviens, aujourd'hui, ils le font, les dirigeants de club, les autres joueurs ouvertement vont démontrer leur appui. Mais à l'époque, je me souviens que c'était silence radio. Est-ce que tu sentais
Sincèrement,
un appui?
Je ne sentais pas spécialement d'appui plus que ça, mais je sentais une chaleur humaine envers David. Je me souviens d'Aldo qui avait une super relation avec lui, avec Nick DeSantis, une magnifique relation avec lui. Il l'a encouragé dans beaucoup de choses. Il l'a aidé et appuyé. Je veux dire, ça, je l'ai vu, tu vois, de mes propres yeux. Et c'est aussi le fait d'avoir un groupe vivant, de jouer et d'avoir une complicité, en fait, qui mène à un seul but. Parce que le sport, c'est aussi ça. C'est le fait d'avoir des joueurs d'horizons différents, mais qui jouent sous un même maillot, sous une même identité. Il y avait des Noirs, il y avait des musulmans, il y avait des Arabes, il y avait David, un homosexuel. Et je trouvais que ça forme une famille. C'est ça la vie, c'est ça le sport, c'est ce que j'aime moi dans le sport, c'est que chacun peut venir avec sa propre identité et doit en fait pouvoir s'exprimer comme il le veut. Donc moi, personnellement, j'ai pas ressenti un traitement négatif envers David, pour être franc. Et je pense que l'ensemble du groupe, je parle pour l'ensemble du groupe, il n'y a personne qui me contradira à ce niveau-là, je pense.
Il y a des mesures qui sont prises quand même. On a vu justement l'équipe canadienne féminine dans ses matchs préparatoires pour Tokyo avoir un chandail avec un brassard et aussi un numéro multicolore aux couleurs de l'arc-en-ciel, la MLS qui modifie leur logo parce que le mois de juin, c'est le mois de la fierté gay. Donc, on va voir...
L'UEFA l'a fait aussi, puis...
Oui, c'est ça, mais je pense que l'UEFA a de plus en plus de pression. On souhaite, ici, on devrait être objectif, mais on souhaite que l'UEFA progresse dans sa mentalité, dans ses prises de décision. Et je vous dis rapidement que... Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ah oui, c'est le retour du CF Montréal, de la MLS, un match à 20h. On pourra en parler la semaine prochaine. Mais en attendant, avant de se quitter, un petit quiz. Connaissez-vous bien votre Ronaldo?
C'est un but d'un peintre, c'est un un but de Picasso, mais là, c'est dommage que vous n'ayez pas les images, c'est absolument extraordinaire. Un ciseau retourné, je peux pas le faire sinon je vais me casser un rein, je vais me casser.
C'est pas grave, fais-le quand même.
Il a fait un ciseau retourné incroyable, il a pris le ballon, on sait pas comment. Comme ça, il l'a fait. Un ciseau, tac, 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 tac. C'est le meilleur coiffeur du monde, c'est le plus grand coiffeur du monde. Et quelle erreur de la défense de la Juve au départ de l'action. Oh, mais ce qu'a fait Ronaldo, je pense que c'est peut-être le but de la décennie. En pleine surface, en quart de finale de la Champions League, il fait un ciseau retourné extraordinaire. C'est un but à fou, c'est un but de fou. Et la Buffon ne peut rien faire, il ne peut dire qu'amen. But extraordinaire, centre de Carvajal sur le côté droit. Et là, en pleine surface de réparation, Ronaldo, un but insensé.
Wow!
Ben oui, mais
mon
ça
Dieu. Fait que là, avant qu'on commence, normalement, on s'attend à une victoire facile de Ronaldo, étant donné qu'on sait que sa maison est tapissée d'affiches de Ronaldo.
Une victoire facile de Ronaldo. C'est qui Ronaldo?
Ronaldo.
C'est lui, là. Hassoun. Bref, il nous dit toujours Ronaldo par-ci, Ronaldo par-là. Fait qu'on se dit qu'il connaît
tout
de lui.
Il signe ses textos Ronaldo.
C'est ça. Rien de moins. C'était un beau lapsus, ça. Wow! Oui.
Hein,
c'était
pas
okay.
J'apprécie.
Question 1. En quelle année Ronaldo a-t-il remporté son premier ballon d'or? Est-ce qu'on essaie sans choix de réponse?
2000...
Premier ballon d'or?
Okay, 8.
Oh, 2008! Bonne réponse. 1-0 pour Olivier Tremblay. C'est bravo. Fort, direct dessus, pas de point.
À l'époque où on faisait un photoshoot dans France Football, puis tout, c'était beau à l'époque. Exactement. J'aimais mieux cette formule-là, moi.
Oui, présenter à Téléfoot aussi.
Au lieu de l'apprendre dans le magazine, c'est comme il y avait une grande entrevue, puis
ouais,
tout.
C'est vrai.
Puis là, ben, il n'y a plus de magazine.
Non.
Tu savais lire en 2008?
Il apprenait.
Ah, OK.
Ben oui, je suis né en 1997 après la meilleure performance de l'Angleterre à l'Euro.
En 292 matchs, combien de buts Ronaldo a-t-il marqué dans l'uniforme de Manchester United? Est-ce que c'est A, 202, B, 178, C, 118 ou D, 92?
92.
92 aussi.
Mais là, vous avez dit une chose, votre réplique, il n'y en a pas. Ah, okay, deuxième chance.
118.
118. 2-0 pour Olivier.
J'ai le droit de dire 118 aussi.
Oui, c'est ça. Fallait que tu répondes plus vite. Faut être rapide, Assoum. Ah, je sais que tu es plus jeune, mais allez, on se dépêche.
Là, des règles différentes.
OK, numéro. Question rapidité. Quel numéro portait Ronaldo avec le Real Madrid?
Il a porté deux numéros.
9
au Real Madrid.
7.
Il a commencé par le 9 parce que Raoul était là, puis après ça, 7.
Mais j'ai dit avant.
Moi, j'ai demandé une précision.
Moi, j'ai dit avant.
Mais c'était une question piège.
J'ai dit 9 et 7.
Ça va faire, les questions pièges, là.
OK, le producteur, l'arbitre, dit à Sun, 2-1, dit.
C'est... Of course.
OK, le 15 juin 2018, Ronaldo est devenu le plus vieux joueur à marquer un tour du chapeau à la Coupe du monde. Quel âge avait-il? Je prends la réponse la plus proche.
33 ans.
T'as peu, 2018?
Ouais, je dirais 34 ans.
Non, mais tu l'avais, c'est 33 ans. Mais là, je me disais, 33 ans et 130 jours, si vous voulez vraiment savoir.
C'est ça, ben j'y suis.
Mon Dieu, tu connais tout par cœur. Dernière question. À l'âge de 15 ans, Ronaldo a subi une importante opération. Il s'est fait opérer où? Opération qui aurait pu mettre fin à sa carrière, dit sa mère.
La cheville.
S'est fait greffer des abdos.
Une opération au cœur.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, tu m'apprends quelque chose.
Ben là, Hassoun.
Ouais, là, pour le coup, au cœur.
Hassoun apprend quelque chose sur lui-même.
Ouais. Sur lui-même. Tu te souviens pas quand tu t'es fait opérer au cœur?
J'ai oublié.
Ben oui, il y a eu une opération au cœur. Ah. C'est ça. Son cœur s'accélérait trop rapidement, même quand il était au repos. Donc, il y a eu un petit fils qui allait donner un choc électrique et ensuite, il est devenu...
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est ça. Ils ont donné comme un pouvoir magique.
C'est
allez, ça. Let's go. Donc, c'est une victoire...
De match nul, de partout.
De partout? Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est vrai, match nul.
On n'a pas répondu.
On a de la misère à suivre. Jacques, excuse-moi. Donc, dans notre classement, eh bien, c'est deux matchs nuls et une victoire d'Assoun Camara. Donc, Olivier, il est encore sans victoire.
Non, mais c'est parce que j'ai un style plus conservateur. Moi, je joue la nulle puis la contre-attaque.
Tu commences tranquille comme l'Espagne, puis un jour, tu vas te réveiller, c'est ça?
Exactement.
Exact.
Merci beaucoup, les garçons, pour cet épisode.
Un plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tellement Soccer.
Ronaldo et Luis,
É raio estrela a marcar. Ronaldo põe Portugal a ganhar. Ronaldo é sim, nunca diz que não. Ronaldo marcou um golaço agora pela seleção. Olha que golo bonito, tão bem trabalhado. Ele, Ronaldo, rematou colocado num gesto de craque, não há quem enganar. Quando ele chuta dali e vive esse momento lindo, olhando para vocês, Ronaldo agora está sorrindo. Tchau, abraço.
Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.